L'association GPS Cancer a réalisé le 7 décembre 2022 un webinaire sur le thème Cancer et patients engagés, qui a suscité différents débats.
Alors, peut-être qu'il y a des questions claires. Est-ce que...
Alors, il y a quelques plutôt...
Ou des remarques.
Des questions, il y a quelques remarques, puis je vois que Sandra a levé la main. Je résume juste dans l'ordre, il y a eu Sylvie qui a précisé que le réseau régional de cancérologie de la région Centre-Val-de-Loire intègre depuis une année une commission patient aidant qui aide l'équipe de coordination à évaluer les outils de communication, site internet, etc. Je ne sais pas si ça rentrera dans, enfin, c'est un complément d'information sur sa région. Sandrine de Montgolfi a complété ce que disait tout à l'heure Sabine sur le fait que le nombre de patients allant vers les associations était finalement relativement faible. Elle a cité une enquête Vicant qui parlait de seulement 6% des patients. Et Sandra, je la laisse, elle a précisé qu'effectivement, les gens allaient peu vers les associations avec plusieurs raisons possibles. Et la principale serait la méconnaissance, mais je te laisse, Sandra, continuer.
Oui, merci Claire.
Sandra, qu'on voit maintenant.
Alors, on me voit, oui, j'ai poussé mon téléphone, je me remets devant.
Non, on ne te voit plus.
J'ai mis un deuxième appareil pour que vous me
d'accord.
voyez.
Oui, d'accord, on te voit là.
Voilà, donc du coup, oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait indiqué Sandrine de Montgolfier. Dans le sens où on a fait une enquête là, tout récemment sur la place des proches, leurs besoins, leurs attentes quand ils rentrent pour accompagner une personne atteinte d'un cancer dans un centre hospitalier. Donc, on a eu 400 répondants. Donc, on a réalisé cette enquête auprès de personnes qui entraient accompagné dans un centre, dans un service de cancérologie, donc dans 6 centres hospitaliers. Et un des enseignements de cette enquête était de montrer que, en fait, malgré toutes les communications qu'il peut y avoir sur Internet, malgré la masse d'informations qui existent, finalement, les personnes, au cours du moment où ils en ont le plus besoin, donc au moment où la maladie est présente et où ils doivent être actifs pour faire face à cette maladie, ils n'avaient pas connaissance, il y avait une vraie méconnaissance des soutiens, services, aides qui pouvaient leur être proposés, et notamment les associations de patients. Donc forcément, c'est un facteur qui n'aide pas à aller vers les associations de patients. Et la plupart des personnes qu'on interroge ou qu'on a en remontée à travers l'association nous indiquent que c'est à la fin du processus de soins, une fois en rémission, une fois que finalement ils ont passé l'étape de l'après-cancer depuis un moment, ils se rendent compte qu'il y a de la mobilisation, ils se rendent compte que les associations existent et que des services existent pour les soutenir. Et donc, c'est éminemment dommage. Mais aussi, ça crée en fait aussi quelque part une émulation et ou une volonté de faire plus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette réflexion aujourd'hui dans cet atelier, enfin, dans ce webinaire autour du patient engagé en cancérologie, parce que finalement, s'ils avaient accès plus rapidement aux informations, s'ils avaient accès plus rapidement aux services, peut-être que leur engagement serait différent, peut-être que on pourrait, je dirais, capitaliser, on serait moins sur cette nécessité de sensibiliser sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, en disant que finalement, au vu de toutes les interventions, les patients sont très présents. Ils sont présents dans les centres hospitaliers aussi, comme le disait la professionnelle de santé qui a répondu dans le chat. Moi, concrètement, dans mon activité, j'interviens en commission, à peu près une fois par mois ou tous les 15 jours à l'hôpital. En fait, le rôle et les attendus de mon engagement pour l'institution, c'est vraiment de travailler sur les aider à mieux organiser le soin. Et donc, il y a effectivement un rôle dans la recherche, mais finalement aussi dans la recherche autour des sciences humaines et sociales et autour de l'amélioration des processus de soins dans les centres hospitaliers. Le patient a une place très importante là-dedans à travers ses expériences. Et donc, ça, on peut s'engager sur ce type de pratique, que l'on soit dans un engagement ponctuel ou dans un engagement bénévole à long terme avec une place dans ces institutions et dans ces comités.
Oui, tout à fait. Et dans différents... Et à différents niveaux. Parce que là, tu parles juste, tu parles de commission avec des professionnels de santé à Gustave Roussy.
Oui, exactement. Oui.
Donc, cancer pour préciser, parce que tout le monde oui. ne sait pas.
Oui, là, cancer c'est... contribution participe au comité expérience patient donc, de Gustave Roussy. Au tout début, donc, qui a un comité patient aidant qui les aide à relire voilà, leur documentation, leur site internet. Et puis, ils ont vu que face aux enjeux qui existent aujourd'hui de manque de personnel, face aux besoins qui existent dans cette institution qui est de très forte renommée et donc qui fait beaucoup, qui apporte beaucoup de choses aux patients, ben, il y avait encore des manques et ils ont décidé de créer ce comité supplémentaire qui n'est pas un comité qui est institutionnel dans la loi. Ce comité supplémentaire pour réfléchir à une meilleure organisation, à quel devrait être leur projet stratégique à mettre en place, leur projet prioritaire à mettre en place au sein de l'établissement. Et au début, j'étais toute seule dans ce groupe, entourée de professionnels de santé, de directeurs de l'établissement. Et puis, en portant ma voix, j'ai indiqué que c'était important d'être à égalité, des voix. Et donc, a été rajouté aussi tous les patients, un certain nombre des patients du comité patient, d'autres associations. Donc, j'étais la seule en tant que représentante d'associations. D'autres associations de patients aussi sont aussi rentrées dans ce processus. Et en fait, l'objectif est de transformer le système avec les professionnels, je dirais, de l'intérieur. Et puis une autre part de notre activité, c'est vraiment de produire des enquêtes et des enseignements. De publier derrière et de faire de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc l'activité de l'association maintenant tourne systématiquement avec une ou deux enquêtes par an, avec des publications là, qui sont en cours et qu'on essaye de faire passer dans la recherche en sciences humaines et sociales, alors que nous ne sommes qu'une association de patients.
Mmh. Et pour rebondir à ce que tu disais, Sandra, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est au mois de novembre que la HAS a publié la coopération entre la HAS et les usagers. Alors évidemment, là, on est à la Haute Autorité de Santé, mais je dirais, c'est quand même la deuxième fois que la Haute Autorité de Santé, donc déjà en juillet 2020, il y avait sorti les soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, qui est vraiment, je vous engage à lire, parce que c'est vraiment des recommandations qui montrent très clairement là où en fait des patients sont attendus, les usagers au sens large, et on peut donc, en dans les usagers, on a les aidants, les patients, et puis cette nouvelle publication sur la coopération entre la HAS, alors là, c'est vraiment au sein même de cette institution, mais ce sont des signes forts que les institutions envoient en fait à tous les établissements pour ces coopérations, et ce qui montre bien qu'on attend vraiment un engagement des patients à tous les niveaux.
Et ces recommandations, Françoise, ont été coécrites avec des usagers, parce que j'ai participé notamment à l'écriture.
Oui, je savais bien que tu étais aussi.
J'ai fait la reco de 2020 sur l'engagement des usagers dans le système de santé. Et après, j'ai été repostulée pour coopération cadre associatif ASSO-HAS. Et donc, j'ai de nouveau participé au groupe de travail pour établir ces recommandations. Et donc, c'est vrai que la HAS est en demande, en fait, de participation oui. usagée pour coécrire ces recos. Et ils sont toujours en recherche de profils différents parce que, voilà, il y a des recos sur tout maintenant et sur, voilà, sur beaucoup de choses. Et donc, il ne faut pas hésiter à candidater. Et justement, le but de la dernière reco sur la coopération ASSO-HAS, elle avait cet objectif-là aussi, c'est d'arriver à toucher des publics qui habituellement ne candidatent pas à la HAS parce que peut-être ne se sentent pas légitimes pour participer à l'écriture ou participer à un projet à la HAS, alors qu'il n'y a pas de prérequis forcément des raisonnables en fait. Donc c'est le but aussi. Donc n'hésitez pas à, quand la HAS fait un appel à candidature, à déposer votre candidature.
Oui, absolument. Il y a Sabrina qui lève la main, je vois. Sabrina.
Bonjour. Déjà, je suis un petit peu émue de voir Lise. Ça me fait plaisir parce qu'on s'était croisés il y a très longtemps. Et je me rappelais à ses débuts et de voir son parcours. C'est beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir. Ça illustre à quel point on a une place à prendre et plein de belles choses à apporter, puis de retrouver beaucoup d'entre vous. Moi, il y a une question on parle beaucoup d'intérêts communs et il y en a un qui me saute aux yeux et d'autant plus que on a tous un parcours qui est chargé en tant que bénévole. On sait que c'est difficile de concilier vie familiale, parcours de soins, pour certains encore poursuite de l'emploi, bénévolat. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas pris le coche de GPS Cancer, parce que on a déjà du mal à gérer, nous, les demandes qu'on a au sein de l'association. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour que justement les patients et accès aux associations, du coup ils sachent qu'on existe et que du coup on puisse les aider et que comme on les aide on soit de plus en plus légitime à le faire, est-ce qu'on n'est pas un intérêt à construire un plaidoyer donne à voir que tout patient devrait pouvoir avoir le droit de rencontrer un patient partenaire ou un patient père, que ça devrait être une proposition systématique au début du parcours de soins. Est-ce qu'on n'aurait pas cet intérêt-là?
Très ambitieux. Alors juste, Sabrina, je précise, est la présidente de l'association Corasso. Et moi, ce n'est pas moi qui vais te contredire, parce qu'il y a, avec 25 ans, avec Faire Face Ensemble, on a mis en place des équipes de bénévoles dans les services de soins. Donc pour moi, ça me semble tellement évident qu'on ait aussi ce besoin de rencontrer des personnes qui sont passées par là, et ça je suis convaincue. Mais effectivement, c'est une belle idée qui alors après tout ça doit être très encadré, c'est-à-dire il faut vraiment que les personnes qui se disent patient, père et des vraies compétences pour pouvoir assurer ça, ça s'invente pas. Moi, je me souviens que quand je faisais du recrutement de bénévoles, je leur posais bien la question, mais quelles sont les motivations? Et souvent, les gens disent, oui, mais moi, j'ai eu un cancer ou moi, j'ai été malade. Ça ne suffit pas?
Non, bien sûr. Il faut des chemins, effectivement.
Et je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut avoir des formations. Ce n'est pas forcément des formations diplômantes, mais et puis être supervisé. Donc, je pense que on commence à avoir des initiatives dans ce sens-là pour proposer le service de patients. Mais
imaginez
à grande échelle.
Ouais, voilà. Et si je précise mon propos, ça peut commencer déjà par s'il y a une association qui est reconnue, au moins d'intérêt général. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas à donner l'existence de cette association? Alors, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il y a des pathologies pour lesquelles il y a un grand nombre d'associations et il y en a d'autres pour lesquelles il y en a une. Et bien qu'il y en ait une, c'est difficile à trouver. Et nous, je sais que quand les patients nous trouvent, il y en a beaucoup qui nous disent « si seulement j'avais su avant que vous existiez, si seulement j'avais su que je pouvais échanger avec, avec d'autres patients, surtout sur des pathologies avec, très complexes comme les cancers tététiques, où il y a un parcours de soins très, très compliqué, très, très lourd. On a souvent ce retour de la part des patients. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce sujet? C'est une question qui me vient en vous écoutant. Hein. Je n'ai pas un projet en tête élaboré. C'est juste pour alimenter le débat.
Alors, juste, moi, je peux signaler qu'en dehors de GPS Cancer, où on est quand même 11 associations, il y a une plateforme, j'ai été cofondatrice de cette plateforme, qui existe toujours, qui s'appelle Aider à aider, et qui recense à peu près 600 associations dans le cancer. Donc, aideraider.org ou .fr, je ne sais plus ce qu'on a mis. Et vous verrez, il y a une géolocalisation, mais c'est vraiment voilà, avec cette idée que justement, ça manquait. Et il faut pouvoir détecter quelles sont les associations sur son territoire qui peut apporter de l'aide. Certains. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ces associations font?
Mais faut-il encore connaître Aider à aider? Et savoir que ça existe.
C'est ça,
ce truc, c'est au secrétariat, pourquoi on ne donne pas bah justement cet annuaire associatif, dire qu'il y a des associations qui existent, ça peut être tout simplement ça, et donner le lien vers un annuaire associatif.
Ça, moi, quand je travaillais donc au site de recherche intégrée sur le cancer de Bordeaux, on était affiliés à un institut de cancérologie, et donc moi, régulièrement, comme tu le dis, Sabrina, je me disais, mais c'est fou, les patients, ils ne savent pas toutes les assos qui existent. Pourtant, il existe plein d'assos. Et il y a forcément celles qui pourraient convenir. Mais en fait, les professionnels de santé n'en parlent pas. Et c'était hyper frustrant parce que pourtant, il y a des livrets qui sont faits avec le descriptif des assos, mais ces livrets n'arrivent pas aux personnes. Donc, je pense qu'il y a une question de timing. C'est quand est-ce qu'on donne les documents? Parce que c'est sûr, si on donne tout au moment de l'annonce, bah, alors là, c'est clairement pas le bon moment. Le patient, il a beaucoup de choses, trop de choses à gérer que de chercher dans les papiers. Puis souvent, il y a une phase de déni où on se dit, mais non, je n'ai pas besoin d'aide, enfin, ce n'est pas pour moi. Enfin, il y en a beaucoup chez qui ça se transparaît beaucoup. Nous, par exemple, chez les jeunes, on a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous voir quand ils sont sortis des traitements, quand ils sont dans l'après-cancer. Et donc, c'est très récurrent parce qu'il y en a plein qui disent non, pas tout de suite. Mmh. C'est vrai que le message des hôpitaux, c'est souvent de se dire, mais oui, mais nous, on est débordés, on a d'autres choses à faire. Et ça, c'est vrai que les hôpitaux sont entre guillemets malades là-dessus. C'est que mais ils n'ont pas le temps et les messages ne passent pas. Et du coup, ce que je faisais quand j'étais encore à Bordeaux, on avait commencé par le biais de la création d'une formation à destination des soignants qui prenaient en charge des adolescents jeunes adultes. D'insérer dans cette formation déjà des patients qui viennent témoigner, donc moi je faisais partie de ces patients-là, j'en mettais une couche en disant n'hésitez pas à parler des assos comme la nôtre ou comme à droite à gauche aux jeunes que vous voyez parce que peut-être qu'ils vont s'en saisir, peut-être pas mais peut-être que si. Et donc, je pense que le biais de la formation, ça peut être un bon moyen. Donc, moi, j'essayais un peu de faire du lobbying auprès de l'Institut en leur disant, mais dans votre planning de formation annuelle, vous avez 15 formations. OK, moi, je suis là, je suis dans la prise en charge des AJAS. Enfin, voilà, prise en charge des AJAS. Mais il faudrait que dans toutes les formations, vous ayez un patient partenaire ou un représentant d'association qui intervienne aussi pour parler de ça, parce que je pense que c'est à force de répéter aux soignants, de leur dire bah, « il existe ça », qu'ils vont commencer à se saisir et redispatcher l'info. Mais ça, c'est un travail et c'est épuisant pour tout le monde.
Oui. Alors, je vois là dans le chat, il y a les soignants ne comprennent souvent pas notre utilité, ne parlent pas des associations de patients relatives à la pathologie concernée. C'est vrai que cette histoire d'utilité, je dirais même quelquefois, ça peut même aller jusqu'à la méfiance vis-à-vis des associations, parce que tout dépend de l'état d'esprit. Et puis, s'il suffit qu'il y ait eu quelque chose qui se soit mal passé à un moment donné, il y a difficile de remettre un climat de confiance. Arrive une autre association qui voudrait faire des partenariats.
Et c'est pour ça que le fait de faire, moi je vois quand j'interviens, en fait, ça les rassure et ils se disent, ah ouais, oui, c'est comme Lise qui viennent, ah mais génial en fait, c'est trop bien ce qu'ils font. Donc c'est le fait d'intervenir comme ça dans les formations auprès de soignants, de leur montrer qu'on est plein de bonne volonté et que finalement, c'est pas non plus n'importe qui intègre les assos, il y a souvent tout un passif, pourquoi on intègre une asso. Donc moi je pense que le prisme de la formation, alors c'est sûr, tout le monde ne se forme pas, mais c'est un début peut-être pour commencer à ce qu'on parle mieux de nous, c'est que parleront plus facilement de nos associations s'ils les ont rencontrés en vrai et si on a discuté que par le biais d'une plaquette ou de quelqu'un qu'on a croisé dans le couloir rapidement. Donc, moi, je pense que c'est un moyen, peut-être.
Tout à fait.
Mm-hmm. Sabine, Sabine voulait parler.
Oui. Mais là, vous êtes en train de suggérer qu'il y aurait une collaboration possible entre les partenaires en santé inclus dans les équipes de soins et les associations. Nous, on donne toutes les infos sur toutes les associations en papier. Il n'y a rien qui se passe. Enfin, la plupart d'entre vous savent ce que c'est la plongée dans un monde inconnu, celui de la maladie. Non seulement il est inconnu, mais il est totalement incongru. Et ce n'est pas à ce moment-là, on est déjà débordé, parce que c'est un vrai travail, qu'on va aller vers une association. En revanche, si le ou la patiente partenaire dit « moi j'ai idée que cette association, à ce moment-là, elle peut être ressource pour vous », mais le lien, il est fait. Enfin, je veux dire, c'est toujours la place d'où on parle qui compte. C'est toujours la qualité de l'information. Trop d'informations tue l'information. Enfin, je veux dire, nous, les patientes, elles repartent avec 15 documents. En plus de la charge émotionnelle liée à l'annonce de la maladie, puis à l'annonce du traitement, puis à l'annonce des effets secondaires. Voilà. Je pense vraiment... Et ça ne m'étonne pas que ce soit dans l'après-traitement aigu en présentiel que l'on se tourne plus préférentiellement vers les associations. Parce que déjà, l'emploi du temps, il est beaucoup trop chargé au départ. Et puis, dans certains cas, il y a une patiente partenaire qui est à l'intérieur de l'établissement et qui peut faire le lien, il me semble. Enfin, là, vous êtes en train de montrer, démontrer qu'on est complémentaire. Mais différent. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être patient partenaire dans un établissement de soins dès l'annonce du diagnostic, avec un bureau dans l'établissement, avec partenaire des professionnels de santé et une association à la ville. Mais tout ça, ça peut se complémenter et probablement faire un accompagnement qualitatif.
Je rebondis, Sabine, sur ce que tu dis, parce que moi, en tant qu'association et pas en tant que patiente partenaire dans un établissement, parce que je n'ai pas cette place-là du tout, moi, je vois toutes les semaines en atelier des patients qui sortent donc, de Gustave Roussy, parce qu'on est en partenariat avec eux et on anime un atelier dans l'après-cancer. Et en fait, c'est au détour des conversations qu'on oriente. Ah ben vous devriez aller voir telle association, vous avez une problématique comme ci, comme ça. Et en fait, on nous demande de le faire parce que dans l'établissement, il n'y a que 2 médiateurs en santé et il y a 1000 patients, même 1300 patients qui rentrent par jour dans l'établissement. Donc la difficulté aujourd'hui du système, elle est la manque de ressources humaines et le manque de financement de ces postes. Alors forcément, on peut se tourner vers les associations puisque c'est une ressource en général gratuite pour les établissements. Et je vois un commentaire de Sabrina, je pense que c'est ça qu'elle voulait mettre. Mais effectivement, ce travail, il est bien plus efficace, comme tu le dis, Sabine, si le patient... On l'a aidé à formaliser ses besoins et qu'en plus, derrière, on l'oriente vers des solutions qui existent. Est-ce que les établissements sont capables de le faire pour tout le monde aujourd'hui? Est-ce que ça ne mérite pas plus d'engagement? Et je pense que c'est le grand sujet de ce webinaire, c'est-à-dire plus on sera nombreux à solliciter, à sensibiliser sur l'importance de cet engagement sous toutes ses formes et auprès de tous les patients, plus ce sera évident. Et je rejoins Sabrina qui disait que peut-être un plaidoyer est nécessaire aujourd'hui.
Et alors, puis, il y a aussi le fait, pardon, que les associations entre elles, ce n'est pas facile. Hein. Enfin, il me semble hein, qu'il y a des choses que l'on ne soupçonne pas. Enfin, moi, on me dit, je reçois moins de gens en ce moment. Il y a quelque chose d'un peu particulier entre les associations qui sont à la recherche de patients. Enfin, moi, ça me gêne un peu, là, cette recherche effrénée, quand bien même on est persuadé que c'est pour leur bien. Laissons-leur leur pouvoir d'agir et leur envie d'aller vers une plutôt que vers l'autre. Enfin, Voilà, je soulève cette question aussi.
Bon, moi, je suis d'accord avec toi. C'est seulement la possibilité de donner un accès. Après, c'est aux personnes pour qui ça peut ne pas du tout être le bon moment, comme tu le disais, mais aussi pas du tout le caractère. Mais avoir la possibilité de donner accès, parce que je rappelle par exemple que ça n'a rien à voir avec l'engagement, mais sur les soins de support aujourd'hui, dans l'après-cancer, le panier de soins, il est qu'à 180 euros, ce qui ne permet pas d'avoir des soins de support possibles suffisamment sur le long terme et sans coût, et sans le monde associatif qui en propose aussi beaucoup, voilà, la qualité de vie des patients serait vraiment... c'est une chance pour les patients de pouvoir en bénéficier. Et je trouve que c'est du même ordre. Plus il y aura de patients engagés au sein des établissements, auprès des patients, plus le système sera vertueux.
Oui, probablement.
Alors, ouais. Là, on est resté pas mal sur ce rôle des patients pairs. Et donc, moi, je voudrais résumer un petit peu ce qui s'est dit, parce que je vois que le temps passe. Et puis, on a vu donc cette évolution hein, depuis maintenant plus de 20 ans, enfin 20 ans, on va dire, cette évolution du rôle du patient qui passait du bénévole et qui va, et tout ça coexiste, bien entendu, hein, et ça va continuer, il me semble, hein, si on voit l'avenir, ça va continuer à coexister le milieu associatif. Et les patients qui sont plus qualifiés et qui se forment et qui interviennent sur différents champs. Et une chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais il y a quand même aussi aujourd'hui des patients qui interviennent auprès de laboratoires pharmaceutiques aussi, qui sont sollicités, des gens aussi qui créent leur société. Moi, j'ai créé ma société de conseil expertise patient. Je travaille aujourd'hui aussi avec le monde de la health tech et ce milieu-là, je me rends compte que c'est encore pour beaucoup, c'est un monde inconnu pour les patients. Ils ne voient pas que finalement, là aussi, dans ce monde de la health tech, alors la health tech, hein, c'est tout ce qui va toucher à la e-santé, la medtech, la biotech, donc toutes ces innovations en santé qui vont sur des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, et où là, en fait, ils sont demandeurs. Je suis membre de France Biotech, qui est une grosse association de professionnels de la health tech, et ils sont demandeurs de ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est aussi une voie. On était là cet après-midi pour montrer les différentes voies, les différentes formes d'engagement. Et aujourd'hui, je vois qu'on reste encore, et c'est un peu normal, mais on reste très axé, on est patient et on s'engage, on accompagne d'autres patients ou on va vers des institutions dans le milieu hospitalier. Mais je vous dis qu'il y a aussi tout ce milieu-là. Et qui nous attend. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient dire des choses, quelque chose et...
Sabrina qui a la main levée, mais je ne sais pas si.
Sabrina.
Oui, pardon, non, c'était au préalable, mais je l'ai écrit juste par rapport à ce que disait Sabine. J'ai l'impression qu'on s'est mal compris. On ne cherche pas à recruter des patients à tout prix, c'est juste que les patients nous font savoir à terme qu'ils auraient voulu nous connaître avant. Et j'ajoute même qu'il y a quand même aussi un dysfonctionnement à ce sujet et que oui, c'est quand même important d'avoir un nombre de patients représentatifs. C'est que pour être reconnu par les autorités, notamment pour être reconnu d'utilité publique, ce qui donne accès à l'agrément, il faut avoir un nombre minimum d'adhérents. Et ce nombre minimum d'adhérents, il est nécessaire pour après porter la voix des patients et contribuer à améliorer. Donc le système, il est aussi fait de telle sorte à ce qu'effectivement, il peut y avoir une compétition entre les assos. Nous, ce n'est pas notre cas, de toute façon, on est la seule. Donc comme ça, la question ne se pose pas, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment, vraiment quand est-ce que les patients nous rencontrent. Et beaucoup nous disent, on aurait voulu le savoir dès le début, parce qu'il y a les patients pères à l'hôpital quand ils existent, et ça c'est génial quand ils sont là, mais quand on est rentré à la maison, le patient père, il n'est pas disponible 24 heures sur 24. Et quand il y a des groupes d'échange, par contre, entre patients qui sont modérés par des patients expérimentés, il y a un échange qui peut se faire au quotidien. Il y a une forme d'être rassuré, de ne pas se sentir isolé, parce que quand on a un problème ponctuel, on ne prend pas la place des médecins, mais on peut apporter des petits trucs du quotidien, ne serait-ce que, enfin, quand je parle en cancérologie tête et cou, il y a un moment donné où manger de la soupe tous les jours, ça ne passe plus, quoi. Donc, on va se donner des petits conseils comme ça. Et là où je te rejoins, Sabine, c'est que du coup, on est complémentaire entre le patient qui est en milieu, en établissement de santé, et l'association de patients, et d'où le fait qu'il faut des patients partenaires, mais pas dans chaque établissement, mais dans chaque service. Parce qu'en plus, on n'aura pas, enfin, tu dois le savoir dans ton expérience, on n'a pas les mêmes problématiques pour un cancer du sein que pour un cancer ORL, que pour un cancer du rectum ou quoi ou qu'est-ce. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus quand même.
Mais je suis tout à fait convaincue de ce que tu dis, Sabrina, et la façon dont tu présentes les choses, c'est très clair. C'est pas le cas, je pense, de toutes les associations. Et pour moi, la complémentarité est essentielle. Et je dis vraiment, enfin, moi, je me pense partenaire des patients, de l'équipe des professionnels et des associations. Et sans aucun doute, voilà. Après, la différence, peut-être, c'est en termes de représentativité. Moi, je me sens représentative de personnes, même pas des femmes autour de 50 ans qui ont eu un cancer du sein, qui ont fait une formation, etc. Et contrairement à ce que tu viens de dire, Sabrina, sur la spécificité de l'organe du cancer, je pense que dans mon cas et dans l'accompagnement que je propose, peu importe l'organe et peu importe la maladie chronique aussi, c'est là qu'on diffère, je pense, un peu, puisque c'est plus une sensibilité au monde qui advient face à une épreuve de la vie, que ce soit un cancer, un accident ou une maladie chronique. En revanche, dans les associations, il y a cette importance de la représentativité, et c'est bien pour ça qu'on est complémentaires et qu'on ne fait pas tout à fait la même chose.
Je vais, si vous voulez bien, parce que je vois le temps, il nous reste 5 minutes, je vais vous lancer le sondage, mais ce qui n'empêche pas de continuer à prendre les questions, parce que j'ai vu il y a Colombine et puis Fanma qui voulaient parler. Donc Colombine, je vous laisse la parole et je mets le sondage et je pense que vous pourrez répondre. Juste pour le sondage, c'est important pour nous. Et aussi, si vous avez d'autres idées, vous verrez, il y a une question sur d'autres thèmes pour les prochains webinaires qu'on pourrait faire en 2023. N'hésitez pas à mettre vos idées dans le chat. Je vous laisse la parole, Colombine.
Oui, merci, bonjour. Pour ma part, je travaille pour une association d'aidants. Donc tout ce que vous m'avez dit en fait fait vraiment écho à la péridance qui commence à être reconnue et qui commence à être prise en charge dans les parcours des personnes malades, puisque maintenant on prend en compte leurs aidants et on leur propose des groupes d'échange avec des personnes qui ont traversé des parcours d'aidance, pas forcément similaires, mais en tout cas des parcours d'aidance différents. Par contre, dans cette notion de péridance, il y a des formations qui sont en train d'être créées pour légitimer en fait ce statut. Et peut-être que c'est ce qui manque, mais ça manque pas, mais en tout cas c'est ce qu'il faudrait réfléchir dans le cadre de la notion du métier, de ce nouveau métier, en tout cas de la place que peut prendre ces patients experts. En tout cas, ces personnes ressources qui peuvent nécessairement apporter un partage, un vécu, une compréhension aux personnes malades d'un cancer. Oui.
Mmh. Oui, merci. Fatma, vous avez levé la main également.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Je me permets d'intervenir, mais j'ai été patiente il y a 2 ans. C'est le cas de le dire, patiente ou pas, pendant le Covid. Donc, tout a commencé le 16 mars, la semaine du 16 mars 2020 pour moi. Effectivement, on a besoin d'être accompagné. C'est indéniable, en fait. Il y a aucun doute là-dessus. Moi, perso, je vais vous rapidement, mais j'ai été perdue toute seule parce que, en plus, à l'hôpital, bah, du coup, Covid, donc j'y allais toute seule déjà. Je suis maman solo, donc ça n'aurait rien changé. Mais et je suis aidante aussi, parce que j'ai un enfant de 18 ans qui est handicapé. Donc, tout était un peu. J'étais un peu sous l'eau, en fait. On a l'impression d'être en train de se noyer parce que déjà. Bah, la télé qui s'est mise en marche toute seule. Le cancer, déjà, bon, ben voilà la mauvaise nouvelle. Ensuite, de se sentir seule. Personnellement, je n'ai pas eu d'aide du tout. Je me suis tournée vers la Ligue, pardon, de la Cité, mais on veut que les choses avancent, il faut citer. La Ligue contre le cancer, pas du tout. Enfin, je suis tombée de haut. On m'a dit, non, madame, il faut passer pour vous inscrire. Je leur ai dit, bah, écoutez, on est en plein Covid et puis j'ai un enfant handicapé, donc je ne peux pas passer. Vous pouvez m'envoyer le formulaire par mail. Hein, c'est ce qu'on a tous communiqué par Zoom et par mail à l'époque. Non, il faut passer, vous inscrire. Bon, bah, j'ai abandonné du coup. Et je me suis retrouvée toute seule. Pas de patient expert, en fait, qui peut être là pour vous dire... tout va bien se passer, c'est bête, hein, c'est des mots tout bêtes, mais on en a besoin. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, la première chimio va être dure, elle va être très très dure. La deuxième aussi peut-être, la troisième, enfin, un espèce de, pas de se sentir dans une espèce de machine, d'usine. Alors, les soignantes, hein, les infirmières ont été au top, hein, c'est pas ça, c'est... Moi, j'ai flippé, j'ai failli arrêter après la première chimio. Donc, enfin, ce truc-là, on vous dirige directement vers un psy. On n'a pas forcément besoin de voir un psy tout de suite. On a peut-être juste besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc, un patient peut-être expert. D'autant plus que tous mes rendez-vous, je les ai faits toute seule. Donc voilà, le patient, je crois que c'est indéniable. Et quand on arrive dans le service, on a plein de prospectus, etc. à prendre. Donc, on n'a pas envie de... Enfin, on va chercher les infos comme on peut. On se retrouve un peu perdu parce qu'on ne sait pas vers où aller. Donc voilà, c'est un peu chaotique. Et comme c'était en plein Covid, vraiment, entre guillemets, j'ai eu de la chance de pouvoir faire mes examens juste avant qu'on soit confiné. Mais à partir du moment où on a été confiné, bah, j'ai enchaîné quoi, les chimios, la radiothérapie, etc. etc. C'est un peu dur et c'est, je suis de nature assez optimiste et j'essaye d'avoir ce truc-là qu'il faut soit positif. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la tyrannie du positif, mais c'est exactement ça. On est génial, on est au top, on va s'en sortir. Ben voilà, faut que ça soit le malade qui soit positif, en plus d'avoir le courage d'affronter tout ça et de se soigner et de finir le traitement. Donc, on a absolument besoin des patients. Moi, je sais qu'à l'Interco, là où je suis suivie hein, jusqu'à aujourd'hui, donc Béatrice Tedel, ça me parle parce que je l'ai rencontrée à Créteil. oui, effectivement, il y a les pères aidants, etc. J'ai failli aller... postuler pour être père aidante, mais dans le milieu psychiatrique, c'est pas possible. Je me suis pas sentie capable de le faire, c'est trop trop dur.
Merci beaucoup.
Je vais m'arrêter là.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je vois que Sabine, tu dois nous quitter parce que la journée commence pour toi.
On a un rendez-vous dans 30 minutes. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'on est à Montréal avec Béatrice Jacques et Marine Delaunay pour mener une étude comparative sur la professionnalisation des patients France versus Québec. Donc, on vous promet de ramener que ce qui est possiblement transférable en France. Oui. On leur laissera s'il y a des choses qui ne vont pas. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur Et là, pour le coup, je me considère vraiment comme co-chercheur de cette étude et je suis ravie d'être là et surtout de vous rapporter un jour ce qu'il en sera, parce que on tourne autour de cette question, mais je crois vraiment que les associations doivent perdurer envers et contre tout parce qu'elles ont des fonctions. Mais je crois qu'il y a un nouvel acteur aussi qui est en train d'émerger et il faut lui... offrir un statut, il faut qu'on y réfléchisse ensemble et c'est vraiment une préoccupation citoyenne, il me semble, et j'ai l'idée qu'on fera encore beaucoup de choses ensemble tous, et je vous abandonne. À bientôt.
Merci beaucoup Sabine, merci. Et merci, j'ai arrêté là le sondage, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont écouté jusqu'au bout. Et passer avec nous, c'est une heure et demie, qui j'espère vous auront apporté quelque chose et donné des pistes pour ceux qui peut-être en avaient besoin, de trouver un peu leur voie, comment en fait on peut s'engager quand on est patient et surtout avec ce besoin souvent qu'on a de se dire on veut se sentir utile. Et je pense que Lise nous a bien expliqué comment elle a trouvé sa voie et comment elle s'est sentie utile et Sabine aussi et puis Sandra a bien expliqué aussi ce qu'était le rôle d'une association telle que Cancer Contribution et avoir un regard comme ça assez large sur ce rôle des patients engagés. Et je pense que ça mériterait même après de peut-être de creuser, on pourra voir, et si vous avez des idées, parce que si vous avez des idées sur des webinaires ou des choses, n'hésitez pas, vous avez mon mail hein, dans les échanges de mails, surtout les mails que je vous ai adressés avec le lien, donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez qu'il y ait peut-être... poursuite de ces échanges d'une manière ou d'une autre. Et puis, si vous voulez aussi rejoindre GPS Cancer, nous sommes prêts, évidemment, à accueillir à la fois des associations, mais aussi, on a dans nos statuts la possibilité d'accueillir les personnes physiques. Donc, ça peut être un engagement individuel. Et nous sommes justement très demandeurs aussi aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi à ce sujet. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Merci à nos intervenantes. Merci à Claire d'avoir été là à mes côtés pour la co-animation. Et puis Claire, elle n'a pas parlé, mais elle a aussi mené une enquête et peut-être qu'un jour, on va pouvoir présenter ses résultats. Une enquête auprès de 75 patients qui se sont engagés. Moi, je suis très friande d'avoir ces résultats-là. Une enquête qui a été menée à partir d'étudiants qui étaient à l'Université des Patients, mais pas que là. Donc, c'est un autre sujet qui pourrait être abordé. Donc, merci à vous et puis j'espère à très bientôt. Et suivez-nous sur le site de GPS Cancer.
Merci Françoise. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et bravo, c'était super.
Alors, on peut rester un peu là, si vous voulez, avant que Lise est partie.
Bravo, Martine. Bravo.
Oui. Ah, bon, ouais. C'était...
Bah, c'était fort.
Ouais, c'était chouette. Juste... Françoise, je te redis juste un truc. Quand tu as parlé de BMS, ça me fait penser à Brigitte. Et quand elle nous avait fait nous rencontrer, elle m'avait dit « Je vais te faire rencontrer quelqu'un et tu vas voir son projet, ça va aller loin. » Donc, la preuve en est par le nombre de participants aujourd'hui. Et bravo pour le chemin. Voilà, je vous laisse en équipe.
Bon, et toi, comment vas-tu?
Écoute, moi, ça va, je reprends de l'activité associative. J'ai
ça a été difficile, l'annonce de la récidive. Il y a eu le Covid, après il y a eu, il y a eu la grossesse, avec tout ce que ça implique, avec les séquelles précédentes. J'étais beaucoup plus fragilisée que pendant ma première grossesse, et puis après la récidive. Donc ça a tapé très fort. Donc j'ai eu besoin de prendre du recul, et puis je m'y remets, et on a beaucoup de... Enfin, là, on a une équipe de bénévoles comme on n'a jamais eu. On a un élan assez chouette, ouais. Alors, ça, c'est, on n'est pas encore au taquet, hein, parce qu'on a on a de plus en plus de sollicitations, par contre. Donc, c'est difficile d'y répondre, et donc, c'est pour ça que, voilà, on a du mal à s'engager au-delà de notre champ d'action. Mais on a des pistes de plus en plus sérieuses. Et puis là, on a déposé un dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique. Donc, très bien.
J'espère que ça a marché.
J'espère aussi. On a des beaux soutiens. Donc, on va voir si ça fonctionne. Moi, je m'attends à ce qu'on se fasse shooter la première fois et puis qu'on refasse un petit tour une ou deux fois. Mais on est assez pugnace, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Normalement, on coche toutes les cases maintenant, mais a priori, c'est vraiment très, très compliqué.
Vous avez plus de 200 adhérents ?
Oui.
Ah, c'est bien, hein.
Ouais, mais voilà, c'est qu'il faut 200 adhérents tous les ans, donc parce qu'il faut que ce soit des membres actifs, et donc il faut qu'on puisse prouver que c'est des gens qui réadhèrent a priori, donc ça, c'est pas simple. Mais on va, je pense que là, on commence à se mettre en place, et puis il y a un besoin. Il y a un besoin parce que d'autant plus qu'il y a de moins en moins de personnel, enfin, il y a un manque de personnel. Même dans les services d'élite, hein. Sandra t'en a parlé tout à l'heure, et nous, on a beaucoup de patients qui nous font des retours, même des soignants à ce sujet. Et du coup, ils se tournent vers qui ? Ils se tournent vers les associations parce qu'il manque d'informations sur la suite du parcours de soins. Donc, il y a une demande.